7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des déchets en Afrique. Parmi les 25 villes les plus sales du monde, 16 se trouvent en Afrique. Un continent où les décharges sont pleines à craquer, avec un mélange d'ordures ménagères, d'équipements électroniques ou chimiques toxiques. Mais depuis quelque temps, les internautes se mobilisent pour dénoncer ces incuries, avec des photos virales sur la toile. Et surtout, les activités de triage des déchets commencent à sortir de l'informel, avec des PME africaines qui apparaissent pour organiser le traitement, le recyclage et parfois le soutien de partenaires au développement. Ce secteur privé fragile peut-il compenser les insuffisances des communes et des pouvoirs publics et offrir une alternative aux offres des multinationales? Quel va être l'impact de la croissance urbaine sur cette filière dans les années à venir? Nous allons en discuter avec nos invités. Adeline Pierra, géographe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des déchets de l'assainissement au GRETS. Le GRETS, ça veut dire groupe de recherche et d'échange technologique. C'est une ONG internationale de développement qui fait donc aussi de la recherche et pas que de l'action. Avec nous également Edem Dalmeda, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux auditeurs.
Vous êtes un patron de Africa Global Recycling. C'est une entreprise de recyclage de déchets basée à Lomé, au Togo, avec des ambitions panafricaines. Vous avez longtemps travaillé en France dans le même secteur, notamment dans un grand groupe, Suez Environnement. Vous avez obtenu plusieurs prix pour votre PME, notamment tout dernièrement à Abidjan, le prix spécial de l'entrepreneur de l'économie verte au Forum des bâtisseurs de l'économie africaine. Nous irons aussi à Niamey pour comprendre l'activité d'une toute jeune PME, Bioplast, qui se lance au Niger dans le ramassage et le recyclage de déchets dans l'une des villes les plus pauvres du monde. Et bien sûr, on attend vos témoignages et vos questions. Les voisins, quelle est la situation chez vous? À qui payez-vous le ramassage de vos ordures? Pour quel service en contrepartie? Et où vont ces ordures? Ça aussi, ça peut être une question intéressante. 33 1 84 22 71 71. C'est aussi un numéro de téléphone WhatsApp où vous pouvez poster des messages vocaux et puis bien sûr vous pouvez écrire sur Facebook, sur Twitter, sur également sur WhatsApp. On attend vos témoignages. Un message posté sur Facebook de Michael qui est à Kisangani, 5e ville du pays en RDC. Dans ma ville, seuls les déchets du marché sont collectés. Ils sont soit déchargés dans la rivière Tchopo ou dans le fleuve Congo. Cette situation nuit à l'environnement. Les particuliers, de leur côté, nous dit Michael, ont tendance à incinérer, mais la fumée est nocive pour la population. D'autres messages sur WhatsApp. Une voisine, Gobine, au Togo.
Bonjour tous les voisins et voisines. Les ordures aujourd'hui ne sont que des plastiques seulement. Or, dans le passé, dans mon village ici, on prenait les ordures pour faire les composts et après on peut mettre ça dans les champs et cultiver. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le cas. Donc, il y a plus de plastique que les ordures. Donc, cela devient un grand problème et qu'il faut souvent brûler ça ou enterrer ça puisque ça ne pourrit pas. Merci.
Bonjour, la RFI. Moi, c'est Président depuis Goma, en République démocratique du Congo. À propos des déchets, dans notre ville, il n'y a pas vraiment de suivi. Parce que quand vous arrivez, je ne sais pas, dans différents quartiers de la ville, vous allez remarquer que la ville est vraiment trop sale. C'est une situation que nous déplorons. Nous demandons à nos autorités vraiment de prendre des dispositions pouvant nous aider en fait qu'ils puissent vraiment réagir à propos de ce qui se passe dans notre ville. Par exemple, aux mairies, vous arrivez au bureau de la mairie de Goma. Là, c'est autre chose. Il y a toute une montagne de déchets qui sont là-bas. Et la fois passée, on disposait des véhicules. Hein? Mais finalement, les véhicules ne passent pas non plus. Et d'ailleurs, vous savez que dans notre pays, il y a la maladie d'Ebola qui se propage. Ça peut être lié à ça, on ne sait pas vraiment. Voilà.
Bonjour les voisins, c'est ça depuis le Lomé au Togo. Sinon, le ramassage des ordures ménagers au Togo, ça se fait la plupart par les ONG. Et les ménages sont obligés de contribuer par une somme de 1000 francs ou 2000. Mais le problème, c'est la gestion qu'on fait des ordures ramassées. Souvent, ça se dépose dans des dépotoirs géants, dans les quartiers à l'air libre. Ce qui favorise la présence des mouches et des moustiques. Or, vous-même, vous savez que les mouches et les moustiques sont la cause de plusieurs maladies, ce qui dérange énormément les riverains de ces dépotoirs. Donc, On prie beaucoup le gouvernement de faire quelque chose pour ça.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Avant de vous donner la parole pour réagir au poste, au message des voisins et d'Almeda, Adeline Pierra, peut-être Adeline Pierra, déjà dites-nous en volume, que représentent les poubelles d'un habitant africain par rapport à un habitant américain ou européen ?
Alors c'est difficile de quantifier de manière très précise ce qui arrive, puisque en général les quantifications se font à partir de ce qui arrive sur les sites de décharge, ce qui implique que ces déchets arrivent effectivement jusqu'au site. On a quand même des ordres de grandeur s'agissant de la production de déchets par habitant et par jour, qui s'échelonnent en Afrique entre 0,3 kg et 0,8 kg, c'est-à-dire en gros moins d'un kilo.
En gros 500 grammes, hein, en moyenne.
500 grammes en moyenne.
500 grammes de déchets par habitant en Afrique.
Avec des fortes différences entre des habitants qui habitent en ville et le milieu rural. Aux États-Unis, on est plus à 2,5 kg par habitant et par jour.
2,5 kg par habitant aux États-Unis pour un Américain et 500 grammes pour un Africain.
Oui.
Ouais. Et pour un Européen ?
Entre 1,2 et 1,8 kilos, moins de 2 kilos.
Voilà. Bon, bah déjà, ça met quand même un peu les choses en place. Alors, par rapport au témoignage que vous avez entendu, Adeline Pierra et d'Almeda, qu'est-ce qui vous frappe, Adeline Pierra ?
Trois éléments. Le premier point, c'est les déchets, la question des déchets de marché. Effectivement, les marchés sont souvent considérés comme des points noirs importants dans ces villes d'Afrique qui concentrent beaucoup de produits et qui génèrent beaucoup de déchets. Souvent, les municipalités les prennent en charge pour deux raisons. Ces quantités de déchets sont très visibles et se trouvent au cœur de l'espace urbain. Deuxièmement, la proximité avec des produits vivriers, la vente de produits vivriers au quotidien est néfaste. Et troisièmement, c'est vrai que ce sont des points intéressants pour trier les déchets et notamment pour isoler la part organique. Puisque les déchets organiques, si on continue dans
on
les
va le
chiffres,
rappeler, les déchets organiques, c'est plus les épluchures, c'est de la nourriture, des végétaux, des
les
choses comme ça.
Les résidus de repas, les végétaux, les déchets issus de petits balayages, herbes séchées, etc. Ça correspond à plus de 60%, entre 40 et 60% de la composition des déchets en Afrique.
Mais alors, quand cette auditrice nous disait au Togo qu'aujourd'hui, la plupart de ce qu'on trouve dans les poubelles, c'est du plastique, c'est vrai ou c'est pas vrai finalement, Edem d'Almeda ?
Bon, peut-être qu'elle parle uniquement de sa poubelle. Encore une fois, la cartographie est totalement différente. Moi, je voudrais qu'on retourne un peu aux fondamentaux. On a l'impression que la question des déchets se pose seulement depuis les indépendances ou seulement depuis une dizaine ou quelques années seulement en Afrique. Mais la société africaine, de par sa consommation, de par son mode de production, a toujours été, excusez-moi, une société écologiste. Moi, je me rappelle encore il y a 20 ans, on était obligé, en allant chercher des repas à l'extérieur, on était obligé de prendre nos assiettes. Nos parents nous frappaient parce que il fallait pas aller acheter dans des sachets plastiques. Aujourd'hui, tout ceci est devenu totalement courant et plus personne ne s'en soucie. Deuxièmement, il y a la question du sable, dont personne ne parle et qui, pour moi, représente un gros fléau. Le sable représente dans nos poubelles près de 40 à 50% du poids de nos poubelles. Tout simplement parce que nous balayons aussi nos cours. Nous balayons matin et soir nos maisons. Donc voilà aussi...
Ça veut dire que des déchets ne sont pas automatiquement mis à la poubelle, ils sont mis par terre dans la cour, ensuite ils sont balayés, et ce qu'on met à la poubelle, c'est le résultat du balayage.
C'est un peu compliqué, c'est pas aussi simple. Ce ne sont pas que les déchets qui vont, toutes nos maisons seraient des décharges. Mais ce que je veux dire, c'est que de par l'architecture, nous n'avons pas d'appartements, nous avons des grandes maisons, des cours communes, et culturellement, nous balayons nos cours. Nous avons du sable, nous avons, pour rejoindre les déchets organiques, on retrouve des branchages, des herbes. Nous avons aussi des détritus d'animaux, parce que nous vivons avec nos poules, nos moutons. Donc voilà un certain nombre de choses à prendre en considération. Maintenant, si on parle de production ou de consommation, nous ne sommes pas consommateurs de produits cuisinés. Quand nous allons au marché, nous allons chercher du poisson frais et nous allons chercher de la viande fraîche. Donc voilà un certain nombre d'éléments qu'il faut rappeler pour comprendre la typologie de nos poubelles sur le continent.
Donc de ce que je comprends, de ce que vous expliquez tous les deux, c'est qu'il y a évidemment une majorité de ces déchets dans les poubelles des Africains qui pourraient directement être recyclés, notamment pour faire du compost si ce sont des déchets organiques ou du sable, ce ne sont pas des déchets qui posent problème en tant que tel. Où partent majoritairement à l'heure actuelle ces déchets dans les villes africaines? Est-ce qu'ils sont brûlés, triés, recyclés, mangés par des animaux?
Un peu de tout ça.
Il y a peut-être deux systèmes. Il y a effectivement le système officiel, depuis les années 70, visait à évacuer les déchets de la ville, à les sortir en dehors des limites de la ville, en dehors des zones d'habitation. Donc ça s'appelle le système hygiéniste, on prend les déchets, on les sort de la ville. Sauf qu'on les a stockés sur des sites de décharge non contrôlés, non aménagés, et que du fait de la forte production de déchets, l'augmentation forte de la production de déchets et du fait de leur changement de nature, c'est pour répondre au deuxième commentaire, effectivement, plus de plastique au détriment des déchets organiques. Eh bien, ces grosses décharges, elles sont saturées, elles entraînent un grand nombre de nuisances. Et on réfléchit...
Quand ce ne sont pas des accidents graves. L'a vu en Éthiopie, on l'a vu à
Éthiopie,
Conakry.
En Éthiopie l'année dernière, à Conakry cette année.
9 morts à Conakry l'été
plus
dernier.
Plus d'une centaine à Addis Abeba. Oui. Donc on passe maintenant à un autre système qui vise à limiter les quantités de déchets à sortir de la ville et pour cela à créer des dispositifs, à intercepter les flux de déchets, créer des dispositifs de recyclage pour éviter limiter la saturation, en tout cas la retarder de ces sites de décharge
Mais quand vous dites, alors finalement, aujourd'hui, le but, c'est peut-être moins de sortir systématiquement tous les déchets des villes, parce qu'on a vu ce que ça donnait avec ces décharges qui sont incontrôlables. Mais en même temps, si on prend une ville comme Lagos au Nigeria, 22 millions d'habitants, on n'a que 40% des déchets qui sont collectés. Ça veut dire que pour le moment, le reste ne rejoint pas les grandes décharges, mais ne rejoint pas non plus des petits systèmes de traitement et de recyclage.
Non.
Donc, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je ne parlerai pas de système hygiéniste parce que je n'en trouve pas. Pour y vivre sur le terrain, je n'en trouve pas.
C'était l'idéal des villes du Nord qui avait été plaqué sur le papier sur les villes africaines.
On n'est plus dans ce cas de figure.
Voilà. Ouais. Mais moi, je pense qu'on a toujours été dans ce que j'appelle des solutions d'urgence. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui vont faire des bons parce qu'ils n'aiment pas quand je parle de ces solutions d'urgence. La solution d'urgence a toujours consisté à juste transporter le déchet. Comment on fait? Et ça, c'est arrivé à quel moment?
Traiter des déchets dans les villes africaines, en général, ça veut dire déplacer les déchets.
On déplace et on met dans une zone, dans une décharge.
C'est ce que disait l'un des auditeurs.
Voilà.
Hein, c'est-à-dire qu'il paye 1000 ou 2000 francs CFA pour qu'on lui retire les déchets, mais c'est très bien qu'ils sont dans le quartier d'à côté.
Exactement, si c'est enlevé. Parce que à quel moment ça a commencé? Dans le village, ce problème, quand on retourne au microcosme du village, ce problème ne se posait pas. C'est lorsque l'urbanisation, l'industrialisation des villes africaines a commencé, qu'il a fallu, exactement comme ça a été le cas à Paris avec Eugène Poubelle, qu'il a fallu réfléchir à mieux gérer les déchets. Donc, la situation d'urgence était comment fait-on pour transporter ces déchets? Malheureusement, nous en sommes encore à ce point. Même si on nous vend sur des arguments marketing maintenant des solutions existent et qu'il va falloir faire ceci. Non, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que nous sommes toujours dans des solutions d'urgence et les mesures, les politiques qui sont prises aujourd'hui sont toujours, à mon sens, des mesures d'urgence parce qu'elles ne répondent pas véritablement aux
Des mesures d'urgence, questions. Mais qui en général sont toujours visibles. C'est l'objectif des mesures politiques, non ?
Oui, pour compléter, il y a mesures d'urgence, mais pratiques quotidiennes dans les quartiers qui sont dépourvus de services. Le modèle que j'exposais, c'est celui des services officiels. Après, il y a les pratiques dans les quartiers.
Le modèle des services officiels, grosso modo, comment ça fonctionne ? Le modèle d'une municipalité qui...
C'est variable, mais plus généralement, il y a des points d'apport volontaire, c'est-à-dire des bacs qui sont situés le long des axes praticables en asphalte, et puis les habitants sont censés venir déposer leurs déchets dans ces bacs. Ces bacs sont ensuite évacués par des camions quand le modèle
municipaux
est adapté.
En général ou pas forcément
par une délégation de service à une entreprise privée. C'est ce qu'on voit souvent dans les capitales, puisque les capitales sont des villes vitrines, donc il faut qu'on tienne certains espaces propres. Dans les quartiers qui sont éloignés de ces axes, eh bien, les habitants, ou parce que le bac est trop loin, eh bien, déposent dans des dépotoirs sauvages, dans des maisons abandonnées ou dans des interstices urbains, des terrains vagues qui sont situés pas tout près de leur habitation, mais en tout cas proche de celle des voisins.
Donc, traitement des déchets dans l'informel, dans les périphéries, dans les quartiers pauvres, et puis sinon, délégation à des services, à des entreprises privées, en général des entreprises d'ailleurs internationales, non ?
Oui.
Qui ont la délégation de la mairie, de la municipalité. Les habitants, que payent-ils et à qui ? En général, Adeline Pierrat, si on prend les différentes villes où vous avez travaillé.
Alors, ou c'est une taxe, si elle est bien collectée, si elle remonte et si elle est ensuite utilisée pour financer le service. Sinon, les habitants peuvent aussi avoir recours aux services du secteur informel, c'est-à-dire à des charretiers qui vont passer au porte-à-porte.
Avec une charrette
ou avec un pouce. Enfin, il y a différentes modalités techniques qui sont adaptées au terrain, à la topographie. Et ces opérateurs de pré-collecte passent au porte-à-porte. Et les ménages payent une petite contribution. Ça peut être un abonnement ou un paiement au passage. Mmh. C'est ce type d'acteurs que nous accompagnons sur un projet du GRET à Brazzaville. Ces opérateurs informels n'étaient pas reconnus par la municipalité et nous travaillons à faire le lien entre le service officiel et le service rendu par ces opérateurs de pré-collecte dans les quartiers éloignés des axes.
Vous dites bien de la pré-collecte, c'est-à-dire que ces services informels ne sont qu'un début de la chaîne, il manque la suite.
Tout à fait. Alors, on travaille bien sûr à la connexion entre les maillons. Ça, c'est vraiment très, très important dans les actions que nous menons, que nous accompagnons au GRET. C'est de prendre en considération l'ensemble de la filière. Et la valorisation, ça représente un maillon, une modalité du traitement, donc un maillon de la filière seulement.
Donc le problème, ce n'est pas tellement la collecte. Hein. Si les habitants sont prêts à payer un petit peu et à mettre leurs ordures ménagères dans une poubelle, ce qui n'est pas très compliqué, en général, ils ne sont pas spécialement réticents. Et ensuite, si on accepte qu'il y a un service informel qui passe ramasser les poubelles, informelles ou formelles, ce n'est pas ça le problème, c'est la suite, hein, on est bien d'accord.
Bon, ce n'est pas si évident que ça à mettre en place, mais disons que oui, personne ne souhaite vivre au milieu des immondices. Donc, quand
vous
ménages...
nous appelez les voisins et les voisines. Je vous redonne notre numéro de téléphone pour... c'est le téléphone du standard, mais c'est aussi du WhatsApp, 33 1 84 22 71 71. On parle de la propreté des villes sur le continent africain. Comment collecter, traiter, recycler les déchets sur le continent africain? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. C'est un sujet qui intéresse de plus en plus les habitants, qui partagent d'ailleurs leur agacement sur les réseaux sociaux, qui postent des photos. Et puis, il y a maintenant aussi des PME africaines comme la vôtre, Edem d'Almeda, puisque vous avez fondé il y a maintenant combien de temps d'ailleurs?
5 ans. Nous avons passé 5 ans.
Exactement. Votre entreprise, qui est basée à Lomé, au Togo, avec des ambitions panafricaines de recyclage. On va en discuter. On vous donne la parole, bien évidemment, les voisins et les voisines, si vous souhaitez poser des questions, apporter votre témoignage. 33 1 84 22 71 71. Un voisin nous appelle de Moundou, au Tchad. Bonjour, Richard.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans la capitale économique du Tchad, Moundou. Que souhaitez-vous partager? Une situation, un constat, un projet qui est en cours dans la ville de Moundou, je crois?
Oui. En fait, nous sommes un projet de la commune intitulé Moundou Ville Citoyenne.
Oui.
Et c'est un projet qui œuvre dans le domaine d'assainissement et de la gouvernance locale.
Mmh.
Et à Moundou, les élections ont eu lieu en 2012. Et donc, dans le cadre de la décentralisation, il est question à ce que ce soit la commune qui gère ses affaires d'assainissement.
Oui.
Or, actuellement, la commune de Moundou est vraiment en difficulté financière.
Oui.
Et il y a une forte insuffisance des moyens matériels et des ressources humaines qualifiées.
Mm-hmm.
Et de l'autre côté, la population participe peu à la cotisation, au paiement des taxes. Et il y a également l'aspect d'urgence, donc ne participe pas vraiment à la gestion des déchets.
Oui, ça c'est une situation qu'on retrouve donc, un peu partout en Afrique. La population ne paye pas parce qu'elle trouve que c'est trop cher pour le service apporté. Hein, et donc du coup, elle se désengage et la situation ne fait qu'empirer. Alors là, il y a une vraie mobilisation, je crois, dans ce projet de Moundou Ville Citoyenne, une mobilisation des habitants.
Oui, parce qu'il est question pour nous d'amener la population à participer aux collectes et à la gestion des déchets.
Oui.
Et donc, nous essayons de travailler en partenariat avec des associations au niveau local de la ville.
Oui.
Et donc, on leur fournit du matériel, tel que les pelles, les purges, cela pour faire des collectes. Et c'est une activité volontaire.
D'accord, ça veut dire que, en gros, vous dites aux ménages, puisque vous ne voulez pas payer, vous allez verser une somme très 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 modique, hein, je crois que c'est 100 à 250 francs CFA, donc c'est vraiment très très peu, et puis vous appelez des volontaires pour qu'ils viennent participer à la collecte et au ramassage d'ordures.
Oui, mais la grande difficulté, c'est comment mettre en place vraiment une chaîne de cette gestion des déchets. Parce que parfois, les gens qui seulement collectent les déchets au niveau des ménages et versent soit au bord des artères, soit dans des places publiques non utilisées.
Mm-hmm.
Donc la grande difficulté, c'est comment amener le maximum des ménages à payer régulièrement les collectes des déchets afin de mettre en place carrément un service plus pérenne.
Parce qu'à l'heure actuelle, quand ça fonctionne, les volontaires amènent ces ordures sur des aires de transit des ordures ménagères, c'est bien ça?
Oui.
Mais ensuite, vous avez vous retombez sur le problème de la municipalité, hein, si j'ai bien compris. C'est qui vide ces aires de transit? Là, c'est à la municipalité de s'en charger.
Oui, nous avons construit des aires de transit et les déchets qui déménagent vers ces transits-là. Mmh. Or, il est question maintenant de vider ce dépotoir. Là, ça pose problème parce que les difficultés que traverse la commune ne permettent pas de vider régulièrement.
Mmh. Donc, et en gros, vous soulevez deux problèmes. Si j'ai bien compris, Richard, à Moundou, vous soulevez deux problèmes. D'abord, que la population s'investisse suffisamment puisqu'elle ne peut pas payer les sommes qu'il faudrait, donc qu'elle s'investisse en termes de bras, hein, physiquement, et puis ensuite que la municipalité reprenne son rôle au moment de vider les aires de transit. Qui veut répondre oui. là-dessus? Qu'est-ce que ça vous inspire, le témoignage de Richard? Merci de nous avoir appelé, en tout cas en direct de Mundu au Tchad. Et je redonne notre numéro de téléphone pour les voisins et les voisines. On parle des déchets en Afrique, 33 1 84 22 71 71. Adeline Pierra.
Oui, je me permets de rebondir sur Mundu, puisque c'est un nouveau terrain pour le GRET. On commence à y travailler avec un partenaire Initiative Développement. Mundu, c'est une ville moyenne. Ça m'évoque, ce témoignage m'évoque trois idées. La première, c'est comment susciter l'adhésion des ménages au service. Au GRET, on travaille sur ce point-là en mettant en place des stratégies de marketing social, de la communication visant à promouvoir... le service mis en place. Ça, c'est vraiment un dispositif qui est... C'est un accompagnement auprès des ménages, en impliquant également les chefs de quartier, par exemple. Deuxième point, c'est effectivement comment vider ces aires de transit des ordures ménagères, puisque sinon, on risque de créer de nouveaux points noirs dans la ville, ce qui n'est pas du tout le but. Et là, derrière, ça rejoint le problème de manque de moyens des municipalités qui n'ont pas de moyens techniques, camions, et pas de moyens financiers pour payer du carburant, ouais.
Là, il n'y a pas de tri dans ce système-là.
Non, ouais. Non, a priori, non. Et troisième point, juste pour dire que quand même les déchets sont très liés aussi à d'autres thématiques urbaines. C'est le cas à Mundu, puisque à Mundu, les déchets sont majoritairement déposés dans les canaux. Mundu, c'est une ville qui est inondée la moitié de l'année.
Ah oui.
Je pense que s'atteler à la question des déchets, c'est aussi travailler sur d'autres thématiques.
Les canaux, les caniveaux qui sont bouchés par les déchets solides.
Tout à fait.
Le cas à Conakry, c'est le cas dans de très, très nombreuses villes. Et d'ailleurs, généralement, quand il y a une alternance politique, ça a été le cas à Abidjan. La première chose qui a été faite par le président Alassane Ouattara, ça a été de déboucher les canaux. Tout le monde s'en est félicité. Ensuite, effectivement, c'est plus compliqué pour poursuivre le cycle. Eden Dalmé, vous, votre entreprise, alors déjà sur l'aspect frein culturel, votre entreprise de recyclage des déchets, vous avez commencé avec des clients qui étaient elles-mêmes des entreprises. Donc vous n'aviez pas le problème de la sensibilisation.
Si, on a eu des freins. Vous savez, j'ai des chefs d'entreprise avec qui l'entretien a duré 2 secondes. Tout simplement parce que je venais de parler déchets et qu'on m'a dit, c'est pas à moi qu'il faut parler déchets, allez parler de ça avec mon responsable d'atelier. J'ai des chefs d'entreprise qui n'ont pas pendant longtemps voulu me recevoir. J'ai des gens au ministère de tutelle qui n'ont pas voulu me parler parce que je venais parler déchets. Mais permettez-moi de rebondir et de replacer quand même les bases. Nous avons raté un coche. Il y a 15 ans, lorsque des jeunes désœuvrés, parce qu'aujourd'hui, la question de la jeunesse égale désarroi, égale révolte.
Ouais, ils n'ont pas disparu en 15 ans. Hein.
Ils n'ont pas. Et nous avons raté un coche. C'est d'abord les jeunes dans les quartiers qui se sont organisés pour gérer les déchets. Parce que c'était une question de survie. Mais à partir du moment où les bailleurs... La Banque mondiale en premier, le FMI, l'AFD, sont arrivés en disant « Super, nous avons un nouveau créneau pour cocher aussi des cases. Comment fait-on » Mais quand ils y sont allés, on a flairé le bon filon. Les gouvernants ont dit « Bon, les jeunes, allez vous asseoir. » Sauf qu'on a oublié que pendant les 30 ans qui arrivent, nous devons créer près de 600 millions d'emplois. C'est ce que nous avons oublié. Il y a 15 ans. Donc, nous avons retiré ce travail à cette jeunesse informelle
alors qu'il aurait
qui
fallu
est la plus
formaliser
structurée.
Mais
bien sûr,
en fait.
C'est ce qu'il fallait faire. Alors, aujourd'hui, qu'on ne s'émeuve pas, que la municipalité n'a pas les moyens. Non, la municipalité n'a ni les moyens ni la compétence et n'a surtout pas l'humilité de comprendre que les compétences soient ailleurs, qu'il faut aller les chercher. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, la question des déchets ne peut pas être dissociée de la question sociale, de la question de l'éducation, de l'accès aux soins, de la fiscalité dans nos pays. Tant que tous ces éléments ne sont pas rassemblés, on assistera...
Pourquoi la fiscalité ?
La fiscalité, on parle de taxes, mais ne me demandez pas de payer une taxe pour gérer mes poubelles et prendre soin de mes poubelles j'ai trop faim, si mes enfants ne vont pas à l'école, si je ne trouve pas d'emploi. Donc aujourd'hui, on met en place un un certain nombre d'éléments de langage, j'appelle ça des éléments de langage, sur la question de l'entrepreneuriat, par exemple, ou des emplois verts, sans faire la promotion de l'entreprise. Mais c'est pas la promotion de cette entreprise qu'il faut aussi accompagner la question durable des déchets.
Donc, pourquoi votre entreprise Africa Global Recycling, qui était présente aujourd'hui au Togo et qui a des ambitions panafricaines et qui part du principe, enfin qui est sur un système de recyclage des déchets, puisque vous recyclez à peu près 40 matériaux, c'est pas que le plastique.
Nous en sommes passés à plus de 60 aujourd'hui.
Des
métaux, du papier, certainement du verre demain. Nous sommes sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.
Revendez ensuite,
que nous revendons dans un marché international, à l'export et maintenant sur le continent africain.
Et ensuite, une partie des bénéfices, vous les renvoyez à vos clients qui se sont débarrassés de leurs...
À nos fournisseurs.
C'est ça, leurs déchets. Donc le modèle est assez intéressant. C'est-à-dire une entreprise, un hôtel qui vous a comme entreprise pour se décharger de ses déchets, elle peut récupérer un petit peu d'argent avec les déchets que vous avez réussi à monétiser.
Bien sûr, il faut...
À commercialiser.
Bien sûr, il faut adapter nos modèles économiques. Et donc, la question de l'économie circulaire, nous nous sommes inscrits dans ce schéma où nous reversons, puisque pour nous, le déchet, ce n'est pas le déchet, c'est une ressource. Nous allons donner une valeur que nous remettrons à nos fournisseurs.
En quoi vous êtes, vous, votre entreprise, alors que vos clients sont essentiellement des entreprises aujourd'hui, et pas des ménages, pas des individus, des familles. En quoi vous pouvez constituer une partie de la réponse de demain pour le traitement et le recyclage des déchets dans une ville comme Lomé ?
Alors, nous ne pouvons pas constituer, nous sommes une partie de la réponse. Aujourd'hui, effectivement, nous ne passons pas les entreprises. Mais depuis 5 ans, nous avons vu des mentalités qui ont évolué. Vous savez, au sein de pourquoi nous avons fait le choix de l'entreprise ? Parce que dans l'entreprise, vous avez des chefs de famille, vous avez des mères, des pères, qui vont eux-mêmes prendre conscience que dans l'entreprise, il y a la question de la gestion des déchets qui s'oppose et qu'il y a un geste éco-responsable, éco-citoyen à adopter. Et aujourd'hui,
pas avec le personnel de votre entreprise que vous allez faire changer les mentalités dans tout l'eau, mais quand même.
Non, nous n'avons pas cette prétention. Mais encore une fois, nous avons des lignes qui bougent. Il n'est pas rare de voir sur notre site AGR, de voir des particuliers qui arrivent en allant au travail le matin, venus nous déposer un sac de déchets recyclables triés. Et puis, nous allons... si je peux terminer là-dessus, nous allons aujourd'hui, nous avons fait le choix des déchets ménagers, mais d'avoir une approche différente. Aujourd'hui, on pense qu'il faut juste aller au ménage, récupérer et puis envoyer dans une décharge ou un centre d'enfouissement ou je ne sais encore sur quelle autre filière. Mais il manquait un maillon de la chaîne. Pour nous, ce maillon est l'école. Et nous avons des résultats. Il suffit que nos gouvernants s'approprient le modèle que nous proposons et se disent qu'on n'est peut-être pas idiot si ça marche. Aujourd'hui, nous avons initié un projet qui s'appelle « Moi, je trie », le jeu comme un jouet, qui fait de l'école ce maillon qui manque à la chaîne de valorisation des déchets. Donc, ce sont les enfants, aujourd'hui, qui font l'éducation des familles.
Alors, pas tous les enfants des écoles de Lomé, attention.
Non. Je vais expliquer. Nous sommes aujourd'hui seulement dans 6 écoles, dans une facette, puisque nous avons démarré en 2016.
Donc, en fait, vous faites une démonstration avec ce type de projet. Hein. C'est que ça peut marcher, qu'on peut sensibiliser les familles et qu'ensuite, on peut valoriser ces déchets, alors que socialement, ce n'est pas un secteur qui intéresse beaucoup. Jackie poste le message suivant à Antananarivo, à Madagascar. Les ordures, il nous dit, sont jetées partout. On n'a pas d'infrastructure fiable. L'État investit des millions de dollars pour l'assainissement. Je pense que ça ne sert à rien. Il faut que les mentalités changent et que l'environnement soit respecté. Je vous propose maintenant un reportage à Niamey. Vous allez suivre un entrepreneur dans l'une des villes les plus pauvres au monde, de près d'1 million d'habitants, qui produit environ 320 000 tonnes de déchets par an, dont 16 000 tonnes de matière plastique. Sofiani Boukari a fondé Bioplast en 2016 et il travaille en partenariat forcément avec la mairie. Il emploie 15 personnes. Condition de payer 5 000 francs CFA, c'est-à-dire 7,50 euros par mois quand même, chaque habitation peut avoir sa poubelle à son nom ou à son logo pour les entreprises et c'est plus facile pour elles bien sûr.
Nous avons commencé avec une seule moto en 2016, donc juillet 2016. Nous avons aujourd'hui vendu plus de 1 000 poubelles avec des services de ramassage. Nous avons aujourd'hui plus de 50 ménages parce que je vous disais que nous voulons avoir un objectif cette année de 500 ménages. Et maintenant, avec les entreprises, si on les ajoute, nous avons au moins une vingtaine. Si on fait la conversion en euros, ça nous fait 163 358 euros. Donc maintenant pour les
160 000 euros grosso modo de chiffre d'affaires par an.
Oui, ça c'est y compris tout, hein, la vente des poubelles.
Et vous arrivez à payer tout le monde, à être bénéficiaire un petit peu?
Oh oui. Et nous aujourd'hui comme innovation, qu'est-ce qu'on fait Niger Bioplace? Nous on envoie des messages. Avec les téléphones, on vous envoie un message pour dire que veuillez préparer, notre équipe va passer pour faire le ramassage. Et quand on finit, on vous dit que vraiment, Niger Bioplace vous remercie pour la confiance. Vous savez. Et
ça, ça marche avec une application ou juste des SMS?
En fait, c'est des SMS.
Et on peut vous contacter aussi pour ramasser ces ordures par WhatsApp?
Oui, par WhatsApp aussi. En tout cas, on utilise vraiment la technologie pour essayer d'être plus en contact avec les ménages. Parce qu'aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de favoriser l'emploi des jeunes. Donc que tu sois diplômé ou bien que tu ne sois pas diplômé, on pense qu'ici à Niger Bioplace, tout un chacun a sa place. Donc vous allez voir, ici nous sommes dans le service administratif, il y a tous les profils. Il y a les agents collecteurs, pas besoin d'un diplôme pour être agent collecteur, mais c'est un métier dans la vie. Quelqu'un peut nous appeler la nuit, 1h du matin, 2h du matin. Vraiment, les déchets m'ont envahi, l'odeur, ça, c'est pas bon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez venir à l'instant? Parce que les gens peuvent appeler à n'importe quel moment. Donc, est-ce que la personne aujourd'hui, elle est prête à faire? Il y en a qui disent que non, c'est une entreprise, il faut que je prenne ma pause, etc. Vous voyez? Donc, nous, c'est des questions. Et une fois que la personne arrive à répondre, et là, on sait que vraiment, cette personne est motivée.
Pourquoi à 1h du matin, on vous appelle pour ramasser leurs poubelles?
Très souvent, c'est les hôtels. Des fois, ils ont des réceptions qui durent un peu la nuit, tard, jusqu'à 23h, minuit, 1h. Tout est gâté, donc il faut vraiment se débarrasser de tout ça.
À Niamey, on a 1 million d'habitants à peu près pour le moment. Vous êtes tout petit, petit, à l'échelle même de la ville.
Effectivement, ça c'est vraiment, nous sommes très petits, mais nous sommes optimistes. Parce que vous savez, il y a la concurrence, il y a beaucoup de gens qui font la même chose. Les gens aujourd'hui ont les mêmes idées, ont les mêmes façons de faire, mais la différence se trouve dans la personne.
Est-ce que vous n'êtes pas limité par le coût pour les familles de ramassage des ordures? Vous facturez 5000 francs CFA. La population à Niamey et dans les autres villes du Niger qui est capable de payer ce ramassage d'ordures, cette toute petite partie de la population va-t-elle vraiment croître?
Aujourd'hui, il y a des clients qui sont prêts à payer pour le service. Et maintenant, il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas prêts à payer. Et là, nous sommes en train de, pour ce genre de clients, voir comment travailler avec la mairie pour asseoir une stratégie. Parce qu'il est du rôle de la municipalité ou bien du pouvoir aujourd'hui d'assurer un environnement sain.
Sofiane Boukari, on vient d'arriver ici au centre de traitement des déchets de Bioplast.
Bon, nous sommes dans le garage de la municipalité pour aujourd'hui faire la valorisation des plastiques. Donc vous avez déjà ici l'unité de valorisation. On transforme les plastiques en pavés.
C'est-à-dire que les employés qui sont ici appartiennent à la mairie ou à votre entreprise Bioplast?
C'est les employés de la mairie. Nous sommes en partenariat avec eux.
Comment vous avez fait pour les convaincre?
Ah bon, c'est notre idée. Beaucoup de gens vraiment ont adhéré à notre projet.
Qu'est-ce qui se consomme dans les gros bras zéro là?
C'est du sable chaud qu'on mélange aujourd'hui avec les plastiques qu'on brûle de l'autre côté et qu'on met dans les fours qui va les faire sortir en pavé. Donc vous avez des échantillons de pavés.
Donc
qui sont ici.
Des fours vont sortir des pavés de plastique recyclés?
Oui, effectivement.
À quoi vont servir ces pavés de plastique?
Les pavés seront utilisés par la municipalité pour faire le pavage des voies et aussi les ménages et les domiciles peuvent aujourd'hui acheter ce genre de pavés pour installer un peu dans leur maison ou bien un peu partout où ça les intéresse.
L'odeur de plastique brûlé est très forte ici?
Oui, c'est fort justement. C'est pour ça qu'ils posent des dispositifs de masques de sécurité pour éviter la pollution.
Alors là, on vient d'entrer dans une salle, Sofiane Boukari, où il y a plein de machines à coudre. Bonjour madame.
Oui.
Combien de temps il faut pour tricoter un sac avec ces bandes de plastique recyclées?
Elle dit que pour faire un sac, elle fait 2 heures de temps.
Donc ces sacs, ensuite, où vont-ils, ces sacs tricotés en plastique?
Les sacs tricotés, effectivement, nous, Bioplast, on les rachète. Donc elles travaillent et nous, on rachète en fonction de leur production. Et nous, on s'occupe de la commercialisation. On prend aussi les frais de transport, les déplacements. Ça, c'est à la charge de Bioplast que nous, on fait. Donc vraiment, en plus de ça aussi, plus la production est grande parce que nous avons vendu des sacs, en tout cas une grande quantité, où vraiment ils se sont retrouvés avec plus que le minimum.
Cette partie-là de Bioplast, c'est clairement une partie entreprise sociale?
C'est une entreprise sociale. c'est grâce à l'appui de l'ambassade de France pour mettre en place ce projet. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont très vulnérables où nous avons beaucoup de cas de mariage précoce. Il y a aussi les cas de divorce excessif qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes se retrouvent sans emploi. Donc nous, aujourd'hui, à travers les déchets plastiques, notre politique, c'est quoi? C'est de mettre en place une valorisation des déchets plastiques pour les apprendre. C'est des métiers.
Madame, est-ce que vous avez un message à faire passer aux femmes qui nous écoutent?
Elle
dit que le message qu'elle a lancé, c'est particulièrement à l'endroit des femmes qui sont à la maison, qui sont dans, elles n'ont aucune activité. Donc vraiment de faire comme elles pour venir apprendre les métiers et avec ça, la personne peut être autonome. La collecte, c'est une chaîne bien organisée. La mairie a des centres de regroupement un peu partout dans les quartiers. Et maintenant, il y a les collecteurs. Aujourd'hui, vous voyez qu'il faut dire à la mairie d'employer beaucoup de gens pour aller faire la collecte. Vous savez qu'en termes de coûts, c'est ce que ça va amener. Donc nous, aujourd'hui, c'est un rôle, un devoir pour la mairie d'être en partenaire avec des sociétés de collecte comme nous, parce qu'on facilite la tâche aujourd'hui en faisant ce métier. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à payer, mais aujourd'hui, il faut que vraiment le secteur soit plus dynamique et que vraiment on protège aujourd'hui les gens. Parce que nous, aujourd'hui, Niger Bioplace, on a une politique de sécurité, on a une politique d'hygiène. Et nous, on a tous les papiers en règle avec la mairie, avec le ministère de l'Environnement. Comme je le disais, il y a des informels qui viennent, ils prennent la nuit, ils profitent, ils brûlent. Et très souvent, vous voyez même le camion de la mairie. Moi, j'ai l'habitude de voir le camion de la mairie qui part éteindre les feux provoqués par des trucs qui sont brûlés. C'est des politiques de l'État. L'État vraiment doit mettre en place des sanctions rigoureuses par rapport à ce genre de comportement.
Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les 5 ans à venir?
Car nous, on veut être vraiment un grand groupe. Parce que vraiment, il faut ça, il faut vraiment recycler. Les gens n'ont pas besoin d'aller s'aventurer, traverser la Méditerranée. Les gens creusent des trous dans leur vie pour prendre de l'or. Ils prennent le pétrole, ils sont prêts à aller dans des trous. Or, pour prendre des ordures, vous n'avez pas besoin d'aller dans un trou, ramasser, trouver la technique, valoriser et puis vous êtes dans une chaîne. Vraiment, nous, notre objectif, vraiment, c'est d'être parmi ces acteurs-là qui vont vraiment contribuer au développement social et économique du Niger.
Adeline Pierra, vous êtes géographe spécialiste des déchets et de l'assainissement au GRET, le groupe Recherche et d'échanges technologiques. Qu'est-ce que vous évoque ce reportage? Il y a de plus en plus de petites initiatives, de petites entreprises privées, minuscules effectivement au regard du volume des déchets à trier dans ces villes africaines, mais en tout cas des initiatives qui se multiplient.
Oui, ça m'évoque, je fais le lien avec une remarque qui a été formulée précédemment et qui, en fait, ça pose la question du tri à la source, du tri sélectif, d'une part. Je trouve ça remarquable que vous le fassiez dans les écoles. Ensuite, le problème, c'est la gestion des flux différenciés. Ça implique ensuite eh bien, de gérer différemment différents types de matières, ce qui est parfois techniquement pas évident à faire. Donc,
plus on fait du tri au départ, plus c'est compliqué.
C'est ça.
Et Eden Dalmeda. Oui,
et juste pour terminer sur ces petites entreprises et sur l'intégration du secteur informel ou plutôt sur la prise en considération de ce qui existe déjà, eh bien c'est quelque chose qui est effectivement très important mais qu'on voit et qu'on voit partout. Ces petites entreprises, elles produisent aussi, et ça c'est important, des produits qui sont destinés aux Africains eux-mêmes, qui sont souvent vendus un petit peu moins cher que des produits neufs. Et ça, c'est des marchés qu'il faut à tout prix conserver.
Vous faites allusion là, aux pavés de plastique qui sont créés, qui sont fabriqués à partir de plastique recyclé.
Ou aux couscoussiers qui sont fabriqués à partir de l'aluminium dans des fonderies. Je fais le lien avec M. Jackie qui nous a appelé d'Antananarivo, où là-bas, c'est le quotidien des Malgaches de consommer des produits issus de la récupération des déchets. Donc,
Est-ce que des PME africaines, alors la vôtre est beaucoup plus importante, Eden Dalmeda, au Togo, sont plus à même de faire le lien, de raccrocher les wagons entre le secteur informel, les entreprises formelles comme les vôtres qui payent des taxes, etc. et qui veulent s'internationaliser et l'État est sur une problématique qui est quand même complexe.
Mais cela ne peut pas se faire sans une volonté réelle d'un partenariat public-privé. Moi, j'ai 5 axes à définir comme défi. C'est d'abord la redéfinition de la notion même de déchets de l'environnement. Ensuite, mettre fin au modèle prêt-à-porter par des cabinets d'experts qui viennent X fois 15 jours pour trouver des solutions ou définir des solutions d'axe stratégique qui ne sont pas du tout adaptées à nos contextes. Trois, c'est faire accepter au gouvernement que c'est uniquement avec le secteur privé que toutes les mesures annoncées seront réalité, sans quoi on restera dans l'incantation et dans l'effet d'annonce. Quatre, une volonté politique qui amènera donc à reprendre en considération, dans une certaine transversalité, toutes les questions liées à la gestion des déchets. Et cinq, de nouveaux schémas dans la coopération sud-sud et nord-sud. Voilà, moi, ce que je préconise pour, enfin, régler la question de la gestion des déchets en Afrique, qui n'est pas un mythe et qui peut être réglé demain.
On donne la parole à un auditeur qui nous appelle en cette fin d'émission. Patrick est à Port-Louis, à l'île Maurice. Bonjour Patrick.
Bonjour à vous.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Vous gérez un centre de traitement de déchets organiques, si j'ai bien compris, ou pas?
Exactement.
Oui.
Nous faisons du compost à partir de déchets non triés. Nous ajoutons, le gouvernement fait déposer les déchets chez nous. À partir de l'engin communaux qui ont une bactérie qui digère le côté organique des déchets.
Oui.
On passe dans un système de tri,
oui.
On récupère le compost et toute la partie inorganique pour le moment est envoyée au centre d'enfouissement technique.
D'accord, donc c'est-à-dire déchets plastiques et compagnie, métaux, tout ça.
Voilà. Mmh. Voilà, voilà.
Et qu'est-ce que vous faites de ce compost? Vous le commercialisez, j'imagine?
Exactement, nous le vendons, il est très très bon, il est écologique.
Vous êtes une entreprise privée à but lucratif?
Oui, nous sommes une entreprise privée, exact.
Et ces déchets, ils arrivent par le biais du ramassage de la municipalité à Port-Louis? Chez vous?
Exactement, Port-Louis et ailleurs. Hein, Port-Louis, Rosile, il y a plusieurs villes qui nous amènent les déchets.
C'est ça. Donc vous ne pouvez fonctionner que parce que la municipalité a envie que le problème se règle?
Tout à fait.
Merci beaucoup Patrick de nous avoir appelé. Edem Nalbeda, quand vous nous dites il faut arrêter d'importer des systèmes en gros du Nord, hein, de cabinets d'expertise pour que nous, finalement, que nous pensions nos propres systèmes adaptés au fonctionnement des ordures ménagères, notamment sur le continent africain. Aujourd'hui, comment se fait-il, quand on voit par exemple que sur un cas comme la Guinée-Conakry, l'Union européenne a déversé des millions de dollars ou d'euros pour depuis notamment l'effondrement de la décharge l'été dernier, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors comment se fait-il, à vos yeux, qu'on a le sentiment que ça n'avance pas, que ça ne progresse pas?
Oui, il ne suffit pas de mettre des millions. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on met des millions. Vous savez, c'est comme une entreprise qui va disposer de plusieurs millions en recherche et développement, mais qui n'avancera pas si elle n'a pas fait l'analyse des échecs, des actions qui ont été menées jusqu'alors. La Guinée-Conakry, que je connais bien, effectivement, pose cette question. Et ça, c'est aussi représentatif de ce que nous avons dans les autres pays.
Adeline Pierra, pour conclure.
Oui, il faut mener des diagnostics approfondis avant toute action et proposer des solutions, des modalités techniques, financières, adaptées à chaque contexte. J'ai envie de dire que chaque problème, ville a ses propres déchets.
Est-ce que les bailleurs de fonds aujourd'hui ont envie de travailler avec les entreprises africaines sur ce secteur-là, du déchet?
Je dirais que oui. Oui, en appliquant aussi les municipalités. Il y a une gouvernance... qui est
indispensable
et qui reste à retravailler.
Et évidemment la volonté politique, on en a parlé. Merci à tous les deux. Adeline Pierra, vous êtes spécialiste des déchets de l'assainissement au GRET. Edem Dalmeda, patron de Africa Global Recycling, une entreprise de recyclage de déchets basée à Lomé. Vous démarrez au Bénin d'ailleurs dans pas longtemps.
Merci au Bénin, à Côte d'Ivoire.
Et Côte d'Ivoire. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Delphine Dedianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz, Marion Goubard. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio. Et demain, 7 milliards de voisins, peut-on changer le monde avec un hashtag, histoire de ces mots-clés viraux sur Internet qui font le tour du monde? MeToo, Black Lives Matter, Je suis Charlie, on en citera beaucoup d'autres. Rendez-vous demain en direct, même heure, même endroit. Merci à vous les voisins.